Il est bon, hein, ce générique. Il vous avait manqué. Pendant les grèves, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez écrit. Je vous en remercie, moi aussi. Il m'a manqué, néanmoins, ce sera tout pour aujourd'hui. En cette période de fête, de ferveur et de communion, plaçons cette émission sous le double signe du miracle et du martyr, prodige naturel, appendice sacrificiel, par la psychanalyse méprisée, la médecine ignorée, les hommes si maltraités, rendons, s'il vous plaît, les hommages qui sont dus au clitoris, cet inconnu. Alors bonsoir, alors bienvenue.
France Inter. Julia Foyce, passons genre.
Il l'a filmé en 3D, il en a réparé des milliers, carrure d'athlète et doigts de fée, violoniste passionné, champion de fleuret unique en son genre. Vous verrez, il est ce soir notre invité, Pierre Foldès, bonsoir.
Bonsoir.
Chirurgien, urologue, vous êtes à la fois celui à qui l'on doit les premiers points sérieux marqués contre l'excision, mais aussi le médecin grâce à qui le clitoris a obtenu reconnaissance scientifique et d'ailleurs connaissance tout court. Drôle de parcours qui prend racine dans la bourgeoisie catholique de Neuilly pour toucher l'acmé du plaisir féminin, vous nous raconterez. Mais d'abord, si vous prenez ce miroir là qui est sur votre gauche et que vous vous regardez, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ou qui vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Qu'est-ce qui vous frappe, vous, quand vous regardez ce miroir?
Alors moi je vois un mec tout simple, hein, comme les autres, parce que en fait... ce dont on va parler, c'est surtout une histoire de faute de mec, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire de genre, mais c'est vraiment le crime des hommes.
Hein. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, quand le fait de voir un homme dans ce miroir-là...
Quand je me vois un peu là-dedans, donc je me mets toujours du côté des auteurs. C'est un peu un de mes moteurs.
Donc ça veut dire qu'il y a une forme de culpabilité, qu'il y a une forme de gêne, de se dire, zut, je suis du mauvais côté.
Pas forcément du mauvais côté, mais il faut être conscient de ce qui s'est passé et comment, depuis 27 siècles, les hommes ont pu perpétrer des crimes pareils. C'est assez hallucinant. Donc il faut déjà, à mon avis, si on veut rentrer dans une histoire comme ça, avec suffisamment de force et de conviction, il faut absorber tout ça et pas se cacher qu'on est un homme avec tout ce que ça a de mauvais et de bon un petit peu aussi, peut-être.
Et c'est pas simple ça, parce que du coup il faut réussir à se dégager de siècles entiers d'une armée dont vous ne faites pas partie. Comment on fait ça?
On fait ça en faisant pas comme les autres, c'est-à-dire on peut toujours se lamenter, on peut choisir de militer, etc. Mais c'est curieux parce que sur le sujet dont on va parler, on milite depuis des dizaines d'années et puis ça a pas l'air de marcher, hein. Moi, je suis aussi un petit peu un French doctor de l'origine et on pensait avoir tout gagné en portant nos valeurs dans ces pays-là. Puis finalement, ça marche pas. Donc, j'avais envie d'essayer de faire autre chose. Et comme j'avais toujours eu envie de faire de la chirurgie, j'ai été dans le faire, ce qui est très facile de faire parce que il n'y a pas trop de parole, hein. La parole, c'est surtout le domaine des femmes. Et les hommes, ils sont un peu moins bons là-dedans. Donc, j'ai choisi d'être dans le faire, dans l'opérationnel direct. Et c'est ça qui m'a un peu sauvé, parce que j'ai trouvé ça plus facile, en fait.
Vous nous raconterez l'aventure médecin du monde et comment vous êtes tombé nez à nez avec le phénomène de l'excision, si je puis dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, chez vous, pourrait faire mauvais genre? Peut-être une petite transgression du quotidien, une provocation que vous cultivez, que vous aimez bien?
Ah oui, il y a un truc que j'ai jamais réussi à comprendre. C'est pourquoi il est si important de rabaisser la lunette des toilettes. Ça, c'est un crime contre l'humanité féminine absolument insupportable. Donc, je n'ai jamais compris. J'ai demandé à des dizaines de femmes de m'expliquer pourquoi c'était si grave. Mais sans comprendre, je fais extrêmement attention de la rabaisser systématiquement. C'est quelque chose qui me traumatise parce que je ne comprends pas pourquoi c'est un crime aussi grave.
Écoutez, on vous explique. On vous expliquera, promis, en antenne. Alors, est-ce que être un homme et se dire féministe, Pierre Foldès, est-ce que ça pourrait faire mauvais genre ou est-ce que ça fait encore mauvais genre aujourd'hui?
Moi, je crois que le féminisme, c'est... Enfin, l'avenir de la société se fait avec la place entière des femmes. Il est absolument incroyable d'être obligé de se dire féministe. Le féminisme, c'est simplement de l'humanisme de base. Si on croit en l'avenir de la planète, si on veut travailler un tout petit peu pour notre avenir, ceux des enfants, il faut être à 100%, à 200% pour les femmes, surtout qu'elles en ont vraiment besoin. Et on découvre des domaines absolument hallucinants où elles n'ont pas leur place et c'est absolument insupportable. Donc il faut d'abord être absolument choqué jusqu'au plus profond de soi-même quand il y a des atteintes ou des violences faites aux femmes.
On empruntera vos pas, Pierre Foldès, et jusqu'à 21h. Ils nous mèneront de Calcutta à Saint-Germain-en-Laye, en passant par le Burkina, selon une géographie qui vous est toute personnelle. Il y sera autant question de science que de foi, de bistouri que de combat. Vous êtes sur France Inter, et ça, c'est Black Puma. Ils sont texans, ils sont six, ils vous ressuscitent toute l'énergie de la soul music avec ce titre et cet album Fire, de quoi faire grimper de quelques degrés la température de la régie. À la technique ce soir, Louis Audebert, à la réalisation Juliette Medeviel et Marie-Annick Rimbaud. Romy Engels chargée de la programmation et de la coordination de cette émission.
Passons genre.
Unique en son genre, c'est le nom de notre collection d'entretiens en tête-à-tête, ou presque. Et ce soir, c'est le chirurgien Pierre Foldès qui se prête au jeu. Pierre Foldès, vous êtes un homme assez pudique, mais qui se glisserait dans votre salle de consultation à Saint-Germain-en-Laye pourrait apercevoir au-dessus ou tout près du bureau des photos d'Anne Frank, de Gandhi, d'enfants mutilés, mais aussi de mines antipersonnelles. Est-ce que l'ensemble vous résume assez bien?
Je sais pas, je suis assez attiré par les gens qui font... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire chirurgie et pas médecine. C'est-à-dire que j'étais dans Pour moi, l'action avait un sens particulier, peut-être libérateur. Et donc, moi, je suis dans le faire. Ça ne veut pas dire que je réfléchis moins. J'ai peut-être des capacités à moins réfléchir, mais le fait d'être dans le faire me donne l'impression d'avancer, d'être plus facilement dans le progrès. Et de surtout de faire participer. Je crois que c'est essentiel en médecine, mais dans plein de domaines, mais en médecine ou en chirurgie, que les gens avancent avec nous. On n'opère pas un patient. C'est le patient qui cherche à être réparé et qui mène la décision de rentrer dans le parcours de soins et qui le mène avec vous. Donc c'est essentiel de pas avoir le premier rôle. C'est ça que j'entends. C'est pour ça qu'il y a ces photos.
Vous mettez sous leur tutelle, en quelque sorte, sous la tutelle.
Je suis avec eux, quoi. Ouais. C'est un ensemble de gens qui ont décidé que il y a un certain nombre de choses qui vont pas, un certain nombre de maladies qui vont pas. Alors quand c'est des crimes, c'est encore pire. Ouais. Donc ils vont dire non. Et leur façon de dire non, c'est ça peut être de défiler dans la rue avec des pancartes, mais ça peut aussi essayer d'inverser ce qui peut être inversé.
La meilleure place sur l'étagère, vous la réservez à la Madone des bidonvilles, Mère Teresa. Elle aussi, elle a fait et comment? En 1973, pour les besoins d'un documentaire, elle faisait visiter un centre pour enfants des rues au réalisateur François Goduchaud.
Cela doit devenir un chichou bhavan. En bengali, cela veut dire maison pour enfants, maison pour les petits-enfants.
Dans le quartier du port, les sœurs remettent sommairement en état les bâtiments d'un ancien monastère.
Well, the children that are homeless and unwanted, and especially for the girls that have been misused.
Cette maison accueillera les enfants qui n'ont pas de foyer et qui ont été abandonnés, et aussi plus spécialement les jeunes filles qui ont été violées par les soldats.
Are there a lot of those girls? Y a-t-il beaucoup de ces femmes qui ont été violées?
According to what I have been told, there are more than 4,000 such girls. But many people say there are many more than that.
D'après ce que nous savons, plus de 4,000. Mais beaucoup prétendent qu'il y en a plus encore.
Vous avez travaillé 3 ans avec elle, Pierre Foldès, et vous dites elle m'a tout appris. Mais quoi, par exemple?
Alors, elle m'a appris d'abord que... Pour arriver à faire ça, elle était obligée de donner beaucoup d'elle-même et elle était obligée de se ressourcer vers quelque chose. Donc elle expliquait sa force de conviction qui pour elle, donc elle devait puiser en elle-même pour apporter tant de choses à ces gens. Et elle m'a montré 2 outils qui sont très indiens d'ailleurs, parce que elle avait pas d'outils de médecine, mais elle avait le regard et les mains. Et en fait, quand elle accompagnait par exemple les mourants, elle les regardait avec une intensité, on sentait qu'il y avait un espèce de courant qui passait. Moi qui suis un petit peu profane et je suis pas forcément un croyant, je voyais que des choses se passaient. Et physiquement, puisque moi je regardais un petit peu l'aspect médical, ces gens-là qui étaient au bout du rouleau, vraiment des gens à l'article de la mort, il se passait il y avait des conséquences physiques, qu'on y croit ou qu'on y croit pas. La deuxième chose, c'est les mains. C'est qu'elle communiquait énormément par le toucher, les mains. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément ému et conforté dans le fait que moi, si je pouvais faire avec des gestes, il fallait que je continue dans ce sens-là. Donc elle m'a conforté dans cette voie de recherche, en tout cas.
Comment vous êtes retrouvé à travailler avec elle?
J'étais en Inde pour des missions de formation, justement, et puis à un moment, j'ai demandé à la voir, elle m'a dit, elle m'a reçu très simplement, puis elle me dit, mais pourquoi vous êtes là? Avec une... Alors c'est marrant parce qu'elle était toute petite, pieds nus et un peu courbée, et pourtant je la sentais 2 fois plus grande que moi, et donc cette question...
Et je précise que vous êtes très grand.
Cette question était absolument incroyable, quoi. pourquoi vous êtes là? Et en fait j'étais tout nu là devant cette question, et je lui dis, j'aimerais apprendre quelque chose. Je sais qu'il se passe des choses assez incroyables dans votre maison, parce que c'était Mother House, c'était chez elle. Et montrez-moi. Elle m'a dit d'accord, je vais vous montrer. Elle m'a pris la main et elle m'a montré.
Alors vous avez grandi dans une bonne famille du 15e arrondissement de Paris. Vous avez fait vos études au collège Sainte-Croix de Neuilly.
Ben oui.
De quoi ou de qui rêviez-vous à ce moment-là, le jeune homme que vous étiez, l'enfant et l'adolescent que vous étiez? Vous
Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'avais des parents qui voulaient absolument pas que je sois médecin.
Mais pourquoi?
Je sais pas. Mais c'était pas un métier.
Parce qu'il y a quand même pas mal de parents qui aimeraient.
Oui, mais là, c'était pas un métier. C'est comme si je leur avais annoncé que je travaillerais dans un cirque. Et en ce sens, maintenant, je suis d'accord avec eux, c'est pas un métier.
C'est-à-dire?
Ben, je sais pas, c'est ni une vocation, ni c'est un besoin viscéral de faire ça. Et pour moi, c'est pas un métier. Donc, ils avaient raison. Mais comme j'étais en désaccord avec eux, il a fallu que je parte un petit peu de chez moi pour me payer mes études.
Donc, vous êtes parti de chez vous?
Voilà, j'ai fait les études que je voulais, mais je voulais être chirurgien en plus, je voulais être pas médecin, mais là, ouais. dès l'âge de 10-12 ans, quoi.
Ah oui, vous souvenez du déclic d'une vocation, d'un moment où vous avez dit je veux faire ça?
J'arrive pas à répondre à cette question, ce que je sais, c'est que je ne supportais pas la douleur. Pas ma douleur, mais les gens souffrir, c'était complètement inconcevable. Donc, je ne pouvais pas vivre avec cette idée, il fallait que je fasse quelque chose. Et le dénoncer ne suffisait pas, donc il fallait que j'essaye de faire quelque chose, quoi. C'est tout simple. Hein,
Alors, dans votre panthéon personnel, on trouve aussi en bonne place une autre prix Nobel de chimie, cette fois. Marie Curie, distinguée pour sa découverte du radium, 25 ans plus tard, en 1927, voici ce qu'elle en disait.
Il est vrai que la découverte du radium a été faite dans des conditions précaires. Et le hangar qu'il a abrité apparaît revêtu du charme de la légende. Mais cet élément romanesque n'a pas été un avantage. Il a usé nos forces et retardé les réalisations.
Qu'est-ce qu'elle représente, Marie Curie, pour vous ?
Marie Curie, j'ai une énorme admiration pour elle. On en parle beaucoup avec Frédéric, puisque
Frédéric Marx qui nous rejoindra en deuxième demi-heure
tout à l'heure, parce que c'est une héroïne qui a tout de la femme, d'abord d'avoir été considérée comme toujours un numéro 2, parce qu'on dit Pierre et Marie Curie. Mmh. Et ça m'a choqué parce que Pierre Curie, en fait, s'est accroché sur ses travaux à elle. Mmh. Et elle a eu quand même deux prix Nobel. Et il a fallu, en fait, que son mari décède pour qu'elle accède à la reconnaissance. Elle l'avait déjà, mais la pleine reconnaissance. Et je trouve que cet aspect des choses, Frédéric, on discute beaucoup de ça, c'est que une femme, elle a beau être l'égale de l'homme, elle a en plus besoin de rattraper un retard pour tout le monde, pour la société, et qui me choque énormément. Donc,
ça vous choque aujourd'hui? Est-ce que, étudiant, ça vous choquait déjà? C'est une conscience que vous aviez déjà?
Oui.
Comment?
Ben, je sais pas, parce que je me souviens d'un débat, à l'époque, sur l'égalité homme-femme.
Quand vous dites à l'époque, c'était quand?
Dans les années 75, 70, ouais. 75. Et il y a quelqu'un à l'Assemblée, une femme qui a dit, voilà, si pour l'égalité des salaires, l'égalité homme-femme, ça serait que si un homme est payé 100, la femme devrait être payée 120. Ça serait l'égalité des salaires, parce que quand elle rentre chez elle, elle a tout plein d'autres choses à faire que n'a pas l'homme. Mmh. Donc l'égalité des salaires, c'est 120 pour la femme, 100 pour l'homme. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça.
Et 50 ans plus tard, on en est toujours à 27% d'écart salarial en moyenne. À ce moment-là, vous êtes étudiant, Pierre Foldès. Pendant votre internat, vous partez en mission humanitaire au Liban. Pourquoi? Vous vous ennuyez à Necker?
Non, c'est très simple ça, la réponse, c'est que j'ai toujours considéré dès le début qu'il y avait le ici et le là-bas, et que ce qu'on appelait, c'est le début des French Doctors, etc. Pour moi, c'était pas quelque chose en plus, c'était l'essence même de la médecine. Il y avait la façon de faire de la médecine.
Il fallait s'engager.
Oui, mais c'était pas comme il fallait faire médecine. Donc c'était faire la médecine, c'était évidemment du ici et du là-bas mélangé. Et pas uniquement d'ailleurs pour apporter, comme disaient les premiers humanitaires, des nos valeurs là-bas. C'est le sentiment profond que l'expérience de ce qu'on pouvait vivre dans ces pays-là allait m'apporter énormément pour ma pratique ici. Et ça s'est révélé tout à fait vrai.
C'est le moment où vous êtes engagé donc aux côtés de Médecins du Monde, c'est ça? Oui. Donc vous partez au Liban et là vous découvrez un pays en guerre. Vous découvrez aussi ce qu'est la chirurgie de guerre. Vous disiez à l'instant, ces pays-là vont m'apporter quelque chose. En quoi ces expériences-là, parce que ça a duré 20 ans quand même, vous et vos missions avec Médecins du Monde, en quoi est-ce qu'elles ont modifié, ces missions-là, l'homme que vous êtes, mais aussi le médecin que vous êtes?
Oui. Pour la médecine, c'est... J'avais un patron, je vais raconter une petite histoire. C'est un patron qui s'appelait Roger Couvlair, qui était un grand urologue, qui m'a dit un jour, tiens, tu vas opérer deux personnes demain. La première, tu l'as vu en consultation, tu veux aller faire un petit test. La deuxième, tu vas l'opérer parce qu'il s'est cassé la figure en mobilette devant la porte de l'hôpital. Et il m'a dit, pour me choquer, cette deuxième personne, elle a plus de valeur pour toi. Parce que la première, elle t'a choisi, donc vous avez une co-responsabilité dans ce qui va se passer. L'autre, il n'a pas choisi, il va juste l'opérer parce qu'il a. Et là, on a rajouté une troisième couche, qui est quand on fait de la médecine humanitaire, On est auprès de populations qu'on connaît absolument pas et qui vous ont absolument pas réclamé, et on fait la démarche d'aller vers eux pour essayer de faire quelque chose. Donc là, on a une véritable obligation de résultat, et cet impératif éthique absolu m'a vraiment, vraiment toujours bouleversé. Hein. C'était, il fallait faire pas plus, mais il fallait faire tout, et je crois que...
Et en même temps, avec une certaine humilité, puisque on vous a rien demandé, quoi.
Bah rien, mais c'est cette éthique-là, cette suréthique qu'on ramène chez nous. Et donc ça modifie nos pratiques, ça nous vit l'autre, et ça va me servir beaucoup pour la suite.
Alors je le disais, c'est vous et Médecins du Monde, c'est une histoire qui dure 20 ans, vous vous retrouvez dans des pays en guerre, vous êtes au plus près des combats, et c'est un combattant, un grand combattant que vous vouliez évoquer aussi ce soir, le lion du Panjshir, le commandant Massoud. C'est très rare, mais vous allez pouvoir l'entendre en français. C'était avec l'un des journalistes à l'avoir le mieux connu, Christophe de Ponfilly.
Les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge.
La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nous, Moudjahid, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont maintenant pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français, complet.
Ils sont prêts.
Ils sont prêts pour commencer la guerre ou pour continuer la guerre.
Un extrait de Massoud l'Afghan, documentaire de 2004. À quel moment Ahmed Shah Massoud fait-il irruption dans votre vie ou dans votre esprit, Pierre Foldès?
Ben, j'ai réussi à le voir déjà un petit peu sur le terrain et puis lors de ses voyages. Et,
vous l'avez rencontré donc?
Oui. Ouais. Et c'est quelqu'un d'absolument bouleversant parce que ce qu'il a fait émanait de lui directement. C'est-à-dire, par exemple, en pleine guerre, il a réussi à unifier 26 tribus, je crois, ou 26 provinces, alors que les Afghans n'ont jamais réussi à le faire ultérieurement. Et surtout, il a réussi à bâtir la première constitution pour les femmes afghanes, ce qui n'a jamais été refait. Donc, face aux talibans, il a fait des choses absolument... Il avait des discours sur la place de la femme, absolument comme les nôtres, hein, d'un modernisme total, dans un contexte de guerre atroce, et pour moi c'est vraiment incroyable d'avoir cette vision, cette humanité, et de bâtir en fait des solutions de progrès humain dans un contexte de guerre aussi grave. Pour moi c'était miraculeux. Et on ressentait ça à son contact.
C'est vrai. Ouais. Tout le monde parle d'un magnétisme, d'un charisme. Ah, qu'est-ce qu'il avait de si spécifique, de si spécial?
Il avait le commandant Massoud. Un peu le regard de Mère Teresa.
Ah oui?
Oui, c'est cette espèce de clarté du regard. C'est un regard qui a un peu humide et puis qui vous transperce, c'est-à-dire que on n'est pas que regardé, on sait qu'on est vu de l'intérieur, et il y a à la fois de la performance dans le regard, mais surtout de la bienveillance. Mmh. Et mettre en avant la bienveillance, surtout dans des situations tendues, c'est absolument miraculeux. Et ça fait espérer dans le progrès humain, quoi, en tout cas.
Votre combat à vous depuis le milieu des années 80, c'est celui que vous menez contre l'excision. Tout commence souvent par une rencontre, en l'occurrence d'une femme croisée alors que vous étiez en mission au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre-là?
Alors, moi, je m'occupais à l'époque, un petit peu après la chirurgie de guerre, de fistules obstétricales. C'est une pathologie très très grave. C'est 240 millions de femmes dans le monde. Simplement qu'elles sont tellement pauvres qu'elles n'ont pas accès à l'obstétrique. Et avec les conditions très très difficiles de l'obstétrique, notamment en Afrique, elles vont avoir des complications dramatiques, c'est-à-dire des perforations de leur vagin, des communications du vagin et de la vessie. C'est des pathologies très très difficiles qui les excluent parce qu'elles fuient de leurs urines et elles sont rejetées par la communauté. Donc c'est une chirurgie très difficile et les Français sont très à la pointe là-dessus. Mmh. Donc j'étais dans ces missions, mais il se trouve que une des causes indirectes de ces fistules, c'est les mutilations sexuelles féminines. Et là, je me suis retrouvé dans ce monde de femmes où pratiquement tout était mutilé, mais je le savais intellectuellement, mais je l'avais pas vraiment conceptualisé. C'est une femme à un moment qui me dit: mais vous êtes urologue, j'ai mal, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et j'ai donc regardé. Ce que je savais intellectuellement, et puis sa demande m'a paru tellement évidente que je me suis dit bon, ben on va essayer de réparer. Et là arrive la deuxième partie de l'histoire, c'est que j'étais anatomiste, je rentre chez moi, bon, je vais essayer de le réparer, le clitoris, j'ouvre mes bouquins, pas de clitoris, il y en avait pas, hein, dans
c'est
mes
fou.
Bouquins d'anatomie,
rien,
de physiologie,
il n'y avait rien,
zéro technique, alors que moi, urologue, j'avais 100 techniques pour réparer la moindre coudure de la verge. rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les gens de science, les scientifiques de l'époque, on était les premiers exciseurs. On avait enlevé le clitoris de la science médicale, de la connaissance médicale. Ça, c'est absolument, ça m'a, alors là, ça m'a bouleversé. Et je me suis jeté comme un fou dans la découverte du clitoris, parce qu'avant, essayer de le réparer, il fallait savoir comment c'était fichu. Et on a découvert un organe absolument merveilleux, qui est aussi grand que le pénis, beaucoup, un peu plus compliqué, et qui surtout, il entoure un peu le vagin, donc c'est absolument incroyable. Mais surtout, il ne sert que au plaisir. Et ça, il n'y a pas l'équivalent chez l'homme.
Il
n'y a pas l'équivalent chez l'homme. Le pénis de l'homme, il sert à uriner, à procréer, mais là, le clitoris, il ne sert qu'au plaisir. Il n'y a pas du tout d'équivalent chez l'homme. C'est absolument incroyable. Donc là, à partir du moment où on a compris comment c'était, j'ai pu découvrir en plus que les nerfs restaient intacts. Donc j'ai dit, c'était possible de le réparer.
Donc en fait, ce que vous faites, c'est vous extrayez une partie du clitoris interne.
Alors, je fais plusieurs choses. Effectivement, le clitoris, il est pas presque intact, il est bien abîmé, mais il faut le sortir de sa position où il est, enlever les tissus cicatriciels et le reconstituer. Le problème, c'est que ça suffit pas. C'est que, en général, elles ont des blessures des petites lèvres et du périnée, donc faut réparer un peu toute la vulve. Et en fait, là, ça suffit pas. Et c'est là que va intervenir Frédéric, que vous entendrez tout à l'heure. C'est que quand on fait ça, on a fait qu'un tout petit bout de chose. C'est qu'une femme, quand elle vient vous voir, pour s'engager dans un processus d'opération, d'abord, elle a fait un chemin intellectuel ou personnel incroyable pour arriver à l'idée de pouvoir essayer de se faire réparer, mais il va falloir tout lui apporter, gérer tout son traumatisme, toutes ses autres blessures.
Sûr. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler. Je précise quand même, et ça n'est pas rien, que vous avez obtenu, à force d'années de combat, que cette opération de chirurgie réparatrice soit remboursée
par
la Sécurité sociale. Et la France est le seul pays au monde, je crois, où c'est remboursé.
On était les premiers. Maintenant, il y a 4 pays qui nous ont suivis. Et puis, on continue à se battre.
Et vous continuez, en poursuivant vos missions en Afrique. Vous allez au contact de populations locales, vous allez au contact de médecins, vous allez au contact de dirigeants dans les pays où l'excision est pratiquée. Mais vous leur dites quoi? Vous leur dites, on arrête?
Alors, on leur dit quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'avant on leur disait c'est pas bien, faut arrêter, mais ça a jamais marché. Maintenant que la science est arrivée, on sait ce que c'est une excision, donc on peut leur dire l'excision c'est ça, voilà ce que vous faites. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on a une efficacité dans le discours qui est plus important, et on redéploie tous nos... Mais on est qu'au pied de la montagne, il faut continuer parce que c'est un très très long chemin.
Mais parce que de toute façon, ce sont des siècles et des siècles de
27 siècles.
De rapports hommes-femmes qui sont fondés sur cette violence et sur cette domination. Donc c'est un aspect du problème, mais encore faut-il s'attaquer à l'ensemble de la montagne, comme vous dites. En tout cas, ces allers-retours permanents entre la France et le continent africain, vous les faites en musique avec Ismaïlo, par exemple. C'est un morceau que vous avez choisi pour nous accompagner ce soir, Tajabone. Pierre Foldès, il vous emmène où? Vous êtes où quand vous entendez ça?
Alors Tajabone nous fait pleurer. Alors Tajabone, c'est une fête qui est le Halloween africain, et c'est une fête absolument incroyable où les enfants, au lieu de se déguiser en monstre, ils s'échangent les vêtements. Les garçons se déguisent en filles, les filles se déguisent en garçons. C'est une fête absolument merveilleuse. Là, dans ce qu'il va nous dire dans sa chanson Ismaïlo, c'est que l'ange interroge les morts pour voir s'ils ont été bien quand ils étaient vivants. Mais c'est absolument exceptionnel, cette musique.
Nita Tajabone, teñi Tajabone. Nita Tajabone, teñi Tajabone. Abdou Ujambar, ñaari malaika la. Khawe esikaw danu sisero momu munila degam julinga momu munila degam wonga. Ko danu sisero momu munila degam julinga mumu munila degam wonga nita jabon denita jabon nita jabon denita jabon wale 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 abdou jamba wale nyari malaika la wale ci kaw lay joge wale dano si sero wale munila wale degam julinga wale munila degam worga
Vous êtes sur France Inter et si l'une des grandes voix du Sénégal, Ismaïlo, vient de vous caresser l'oreille, c'est grâce à Pierre Foldès, unique en son genre, l'homme qui réparait les femmes est notre invité, mais il est venu accompagner. Pierre Foldès, pouvez-vous nous présenter la personne qui vient de s'asseoir à votre gauche, s'il vous plaît?
Alors Frédéric, c'est celle qui est venue me tirer par la manche alors que j'étais dans mon bloc opératoire.
Frédéric Martz, bonsoir.
Bonsoir.
Et elle m'a dit, manifestement tu connais rien aux femmes, et si tu veux essayer d'aller un petit peu plus loin dans ton petit chemin que tu as commencé, il va falloir qu'on remette tout à zéro, qu'on mette tout à plat et que je t'explique un peu comment ça fonctionne une femme, comment c'est. Et j'ai découvert tout de suite que c'était complètement évident et maintenant je suis bien à ma petite place de maillon au milieu de cette grande chaîne de réparation.
Bravo.
Frédéric à la première place puisque c'est elle qui a tout inventé.
Beau boulot Frédéric Martz. Juste petite question, je crois que cette chanson d'Ismaïlo vous parle à vous aussi beaucoup. Elle vous évoque quoi vous?
Alors moi, elle m'évoque la première fois où Pierre Foldès m'a proposé d'aller voir une chirurgie. Je suis entrée dans son bloc opératoire avec plein d'appréhensions. J'avais pas envie de voir le sang, j'avais pas envie de voir un sexe de femme finalement, hein, puisque on le voit pas tant que ça ou tant bien que ça. Et en rentrant, il me disait, tiens, de temps en temps, pour décontracter les femmes, je leur mets une musique. Et il a passé cette musique.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas la seule qu'il passe, mais c'est une de celles qui m'a le plus marquée et qui m'a créé beaucoup d'émotions. D'abord parce que, comme le racontait Pierre dans le message de cette chanson, il y a les enfants. Et les enfants sont quelque chose, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'a paru essentiel dans l'intégration de leur devenir et de leur avenir pour cette cause et ces violences que l'on fait aux femmes et aux enfants.
Vous allez nous raconter et votre rencontre et votre projet qui n'est plus du tout qu'un projet, votre association Women Safe. Vous êtes sur France Inter.
France Inter. Pas son genre.
Alors, je vais partir de ce qu'a dit Pierre Foldès et je vais essayer de résumer votre rencontre à tous les deux. Frédéric Martz, vous me dites si j'ai bon. Hein. Donc, on est en 2008. Pierre Foldès présente lors d'une conférence sa technique de chirurgie réparatrice pour les femmes excisées. Et vous allez le voir et vous lui dites, t'es bien gentil. Enfin, une femme, c'est pas qu'un clitoris. C'est ça?
À peu près. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais plutôt positionnée sur un engagement auprès de femmes médecins parce que la médecine se féminisait et qu'il fallait réfléchir au comment les femmes médecins vont demain pratiquer la médecine. Et c'est en rencontrant une femme médecin, je lui dis, écoute, qui c'est qui pourrait intervenir sur ce sujet, sur la féminisation de la médecine? Et elle m'a dit, écoute, un homme qui va te parler des femmes. Donc j'étais un peu dubitative. En même temps, il n'a pas parlé des femmes en tant que professionnelle de santé, mais plutôt en tant que femme qu'il réparait. J'ai découvert à ce moment-là l'excision avec une surprise. Je ne connaissais pas, alors qu'en fait j'étais intéressée par le sujet et le devenir des femmes. Mais l'excision, c'était quelque chose du là-bas, quoi, comme on aime
ça,
le
pas,
dire, en fait.
C'est pas ici. Je redonne les derniers chiffres inconnus. C'est 200 millions de femmes dans le monde et 50 000 en France. C'est ça?
près de 60 000.
C'est ça, d'accord. Vous, Frédéric Partz, à ce moment-là, en 2008, vous venez de passer 25 ans dans le secteur de l'édition médicale. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager auprès de ces femmes-là ou des femmes en général? Vous avez un déclic?
Alors le déclic, je l'ai depuis très très jeune. Hein. Simplement, je n'ai pas pu me réaliser en tant que femme, puisque souvent on choisit l'alimentaire. Donc j'ai fait 25 ans parce que j'ai fait des enfants très jeunes, 20 ans, 21 ans. Et que quelque part, on fait un peu l'inverse, un parcours inverse aux hommes, puisque d'abord, on sécurise, on travaille pour les éduquer, pour leur permettre d'accéder à des études. Et puis après, on se réalise en se disant, bah, c'est le moment pour moi, mon temps à moi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu inversé les choses, mais j'ai toujours été extrêmement, on va dire, très engagée sur l'humain en général.
Et sur les femmes en particulier.
Et sur les femmes en particulier, ouais. Évidemment.
Vous retroussez les manches, Frédéric Martz, pour obtenir ce qu'il faut de subventions, de reconnaissance des institutions et d'autorisation. En 2014, Women Save voit le jour sur le site de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye où vous exercez, Pierre Foltès. Alors, à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce centre, qui y vient, comment ça fonctionne?
Je crois que ce centre, il a déjà des valeurs. Il a des valeurs très importantes puisqu'on a construit ce centre en tant qu'homme et que femme, qu'il était important effectivement qu'on porte ce féminisme du fer plutôt que de militer sur les barricades le week-end. Donc on a.
Mais on peut faire aussi les barricades.
Mais bien sûr, mais on est épuisé et on ne peut plus les faire de cette manière-là. En tout cas, nos valeurs, c'était de porter en fait un dispositif qui allait mettre en valeur le combat des hommes et des femmes pour la cause des femmes.
Alors, les femmes qui viennent vous voir, elles ont accès à qui? Alors, vous les rencontrez, Pierre Foltès?
Oui, alors c'est pas moi, il y a ma petite partie, mais c'est surtout, elles viennent maintenant directement à l'Institut, elles sont reçues donc par une infirmière d'accueil, parce qu'il va faire le tri, on a choisi une infirmière, pas un autre métier, l'infirmière c'était très adapté. L'infirmière va faire la liste de tout ce dont elle a besoin, et donc un des principes fondateurs de l'Institut, il y en a deux, c'est que c'est ouvert à toutes les violences faites à toute forme de violence, hein, ouais. Qu'elle soit ici, là-bas, intrafamiliale, le viol, l'inceste, l'université, tout. Et on va essayer de tout apporter. C'est la première approche globale qu'on appelle holistique, où toutes les branches de métier vont intervenir.
C'est-à-dire des avocats, des juristes, des qui. Frédéric Martz.
Oui, alors la chaîne des métiers, effectivement, on l'a mis dans un même lieu, puisque la difficulté des femmes victimes de violences, c'est des parcours qui sont morcelés. Et l'idée, c'était de réunir en un même lieu des métiers qui allaient effectivement se coordonner pour être plus efficaces qualitativement et se parler, puisque on sait très bien que les médecins et les avocats ne se parlent pas, et on les oblige à se parler pour être plus efficaces et plus stratégiques aussi.
Parce que l'idée, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a la souffrance physique chez une femme excisée, par exemple, mais on l'a bien compris, toutes ne sont pas excisées, toutes celles qui viennent vous voir ne sont pas excisées. Il y a la souffrance physique, mais en fait, c'est une souffrance qui est beaucoup plus globale. Et si on ne s'attaque qu'à la souffrance physique, on n'a rien compris.
La souffrance psychologique est toujours présente, et donc ouais. C'est pas du tout un centre d'excision. L'excision, c'est 10% à peine de celles qu'on voit.
Ah hein. Oui.
C'est très très peu. Au début, il y avait un petit peu ça, mais les femmes victimes de mutilations sont traitées comme les autres femmes. C'est ouvert vraiment à toutes les femmes. Et les mutilations, c'est qu'une toute petite partie de la population des femmes qu'on rencontre.
Comment est-ce que vous, comme homme, vous vous adressez à elles? Parce que elles sont victimes de violences masculines. Vous arrivez là pour les réparer, pour les écouter, etc. Est-ce que du coup, vous réfléchissez dans votre pratique à comment vous vous positionnez, ne serait-ce que physiquement, comment vous leur parlez?
Bon, d'abord, moi, je suis assez peu présent à l'Institut, hein, c'est surtout Frédéric et ses équipes. Moi, j'ai une des voix d'abord, puisque je vois les femmes que je vais opérer, mais bon, c'est assez simple. En fait, l'événement que va nous apporter une femme qui parle la première fois de ces violences, c'est qu'elle est dans un dialogue singulier, c'est-à-dire qu'elle est avec un professionnel. Mmh. Et là, c'est un moment absolument incroyable où la parole va être rendue, elle va commencer à parler. Et ça, il faut saisir ce moment, le protéger, et ensuite l'exploiter en le mettant sur les rails de la réparation. Et quand on parle de la réparation, on insiste bien, on dit c'est les femmes elles-mêmes qui se réparent. Nous, on est là que pour les aider.
Parmi toutes ces femmes que vous avez croisées, je donne peut-être un chiffre encore, hein, depuis sa création, et vous m'interrompez si ça n'est plus le bon déjà. Women Save a accueilli 2250 femmes.
2560.
Hop là, ça continue à monter. Et combien d'enfants?
150.
D'accord. Alors parmi toutes celles qui sont passées par votre centre, Frédéric Martz, il y en a une dont vous voudriez nous parler, elle s'appelle Ayem. Elle a 19 ans, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de son histoire?
Oui, Eyem, c'est important en fait, parce que c'est un peu un symbole, c'est le symbole de cette jeune génération qui aujourd'hui dit pouvoir libérer la parole quand elle a subi une forme de violence. Là, en l'occurrence, c'était un viol. Eyem a parlé la première fois hier dans une émission de télé. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant, d'abord parce qu'elle a impacté sur la société en général, sur sa génération, en disant, avec des mots très très forts, « ne reste pas dans le silence ». J'ai été trop longtemps dans le silence et j'aurais pu effectivement très mal tourner parce que Eyem explique qu'elle a été hospitalisée par cet impact d'une violence sexuelle subie et qu'il était important que les jeunes maintenant comprennent qu'il ne fallait plus se laisser faire et se mobiliser. Et je trouve que cette force, elle est incroyable.
C'est le parcours d'un certain nombre de femmes qui viennent vous trouver d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles vont mieux, qu'elles commencent à aller mieux, elles s'investissent, elles militent, elles participent de cette levée du tabou sur l'excision et sur les violences faites aux femmes.
Oui. Alors, et évidemment, on parle beaucoup d'excision. Alors, je vais quand même donner un point très très fort. L'excision, c'est un impact sur la sexualité de la femme, mais qui m'a permis aussi, dans ce centre, de permettre aux femmes victimes de violences conjugales de dénoncer les violences dans le couple. Ouais. Parce que finalement, ces cercles de parole que nous réunissons, toutes violences confondues, quand on a une femme qui parle d'excision et qui parle de sa mutilation, elle réveille en fait et elle permet de révéler des violences sexuelles, par exemple, dans le couple. Et ça, c'est très très fort, c'est une union de femmes qui aujourd'hui se libèrent, on va dire réciproquement la parole, sur des sujets qui restaient encore très longtemps tabous sur ce sujet-là.
Alors il y en a une qui prend régulièrement la parole dans les médias et qui a été l'une de vos patientes, hein, Pierre Foldès, c'est l'actrice et chanteuse malienne Ina Modja, aux journalistes de France 24 qui lui demandait en février dernier, au fond, pourquoi on excisait, voilà ce qu'elle répondait.
C'est censé limiter la femme. J'ai entendu parfois qu'il y a des femmes qui font des longs trajets, marchent beaucoup, donc le clitoris, avec les frottements des jambes, ça devient douloureux, donc il faut l'enlever. Il y en a qui disent que sinon la femme risque de devenir nymphomane et de casser le socle familial, donc il faut la contenir un peu. Mais en lisant beaucoup, je me suis rendu compte que même en Europe, ça se pratiquait au Moyen-Âge. On disait que ça enlevait l'hystérie de la femme. Donc c'est quelque chose qui est pratiqué, à mon avis, pour tenir les femmes et les mettre dans une position dont elles ne doivent pas bouger, c'est-à-dire mère.
Vous êtes d'accord avec elle, Pierre Foldès, on veut limiter la femme en l'excisant, la contenir, la réduire à son statut de mère.
Oui, c'est très simple, c'est un crime d'homme, hein, c'est très simple, on va mettre plein de prétextes derrière ça, mais au départ, c'est un crime d'homme, c'est-à-dire qu'au départ, les hommes se sont aperçus, d'abord, la femme menait la reproduction du clan parce qu'elle, c'est elle seule qui pouvait mettre des enfants au monde, mais la sexualité des hommes, des femmes, a fait très peur aux hommes dès le début, ils l'ont trouvée trop complexe, effrayante, incontrôlable, et ils ont trouvé, eux, bien avant nous, ce petit organe qui permet de la
réduire, jouissance féminine qui faisait peur.
Voilà, jouissance, le type de plaisir féminin qui était pas du tout, lié d'abord à l'éjaculation, donc à la procréation, qui pouvait être indépendant, et puis qui pouvait être beaucoup plus complexe, multiforme, et ça a effrayé les hommes, c'est une peur, et donc ça a amené au crime. Et le crime, c'est ça, c'est qu'on coupe ça, et alors après, ça peut détruire toute la femme, hein, en fait.
Vous avez le sentiment, quand même, que, si on prend l'exemple du clitoris, et c'est un exemple parmi d'autres, mais aujourd'hui, on ne fait pas qu'en parler, il y a aussi sur des pancartes, en manifestation, il y a des comptes Instagram qui se créent autour de lui. Toute la nouvelle génération féministe s'empare de cette question-là, comme d'une question extrêmement symptomatique. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent déjà, vraiment, pour les femmes en général, et pour les femmes qui viennent vous trouver, est-ce que ça a un impact ? Frédéric Martz.
Oui, ça a un impact parce qu'on en parle. Déjà, ouais. Le fait d'en parler, c'est important. Le fait de le... Alors, moi, ça me gêne un peu parce que c'est vrai que le fait de centrer tout sur cet organe qui est quand même fait partie de l'intimité de la femme, il va effectivement être un étendard pour les femmes, alors qu'il n'y a pas que ça. Cette féminité...
Bien sûr,
en fait...
mais il raconte à lui tout seul, il arrive quand même à raconter comment les femmes ont été traitées, c'est-à-dire à la fois ignorées, à la fois maltraitées, physiquement et moralement. Évidemment qu'elle se résume pas à ça, mais raconter l'histoire du clitoris, c'est aussi raconter l'histoire des femmes.
Alors dans le cas de l'excision, il faut savoir une chose, parce qu'on n'en parle jamais de cette façon-là. On parle des femmes, mais moi je parlerai plutôt des enfants. C'est sur des enfants que on pratique cette mutilation. Donc ça veut dire qu'au point de départ, c'est des petites filles. On parle pas des mariages forcés qui sont effectivement dans le cas de l'excision qui se surajoutent. Mais la dernière fois, j'ai une femme qui est venue justement dans le cas de l'excision et qui me disait, mais vous savez, il y a aussi des hommes qui sont mariés de force. Donc, moi, j'essaye de recréer dans ce que j'essaye de transmettre dans cette parole, c'est Ne perdons pas de vue que les enfants sont les premières victimes de pratiques qui ne sont pas acceptables, que ce soit dans le cas des mutilations, voire des enfants témoins de victimes ou témoins de violences conjugales, par exemple. Donc, cet organe, évidemment, il est important parce qu'il est symboliquement le symbole de la femme. C'est aussi le symbole du plaisir. Mais pour autant, je dirais que ce militantisme se fait, mais n'oublions pas que c'est une part dans tout ce combat que l'on doit mener protéger aujourd'hui les femmes de
et ce
plein d'autres formes de violence.
Ce combat-là, au sens le plus global du terme, avez-vous le sentiment que ça bouge? Est-ce que, par exemple, quand on pense à une manif comme celle du 23 novembre, est-ce que ça peut avoir une répercussion plus large sur les femmes que vous recevez, même si ce jour-là, elles ne défilaient pas?
Oui, bien sûr, parce qu'elles sont conscientes qu'effectivement, maintenant, leur est réservé un droit de parole, hein, puisque c'est un peu ça le symbole. Le militantisme dans la rue est important. D'ailleurs, on a milité, on était en marche à ce moment-là, avec des femmes qui ont souhaité effectivement accompagner ce mouvement. Donc, c'est évident que les choses bougent aujourd'hui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que ce sujet est un sujet de génération, qu'aujourd'hui la jeune génération, elle a d'autres pulsions, d'autres impulsions, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans les universités, parce qu'elles ont d'autres besoins et d'autres revendications. Maintenant, il faut réunir tout ce petit monde en disant bah, c'est une force, on va dire, beaucoup plus homogène à faire avancer, en fait.
Alors, à force de gouttes d'eau, à force de grains de sable, qui sait un jour, peut-être. En tout cas, dans l'un des couloirs de Women Safe, il est écrit « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. »
Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi, je cours après.
Odessa, Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter.
Odessa, Odyssée.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odessa.
Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Odessa, Odessa.
Anissa, Odyssée et Kerenan nous baladent ce soir dans les méandres du genre humain, masculin, féminin, à les savoir et qu'importe d'ailleurs, puisqu'ici, tout est permis.
Pas son genre. Julia Foyce.
Oui, ici, tous les vendredis, on invente, on imagine un monde où chacun ferait ce qu'il veut de son sexe, de son F, de son M, de son tout ce qu'il veut. Frédéric Martz, vous avez sacrifié gentiment notre rituel. Si un objet racontait votre féminin à vous, rien qu'à vous, ce serait quoi? Montrez-le-nous, décrivez-nous,
alors,
s'il vous plaît.
C'est effectivement...
Ça a l'air très lourd. Déjà.
C'est très lourd, c'est très costaud. Ouais. C'est donc une œuvre de l'artiste Michel Savinel, qui effectivement habite à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un peu hasard, mais c'est un socle qui paraît fragile puisqu'il est effectivement mouvant.
En fer à cheval un peu.
Exactement, ouais. Avec donc une femme debout avec une posture extrêmement forte, les bras ouverts. Donc c'est cette ouverture vers l'autre qui me plaisait.
Et elle est en X.
Et elle est en X. Bon, on va dire elle est
c'est
en X.
C'est juste pour décrire aux auditrices, aux auditeurs. Elle a les bras levés vers le ciel et les jambes, effectivement, de chaque côté du fer à cheval. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous?
Ben, elle raconte effectivement que la femme aujourd'hui, elle est sur un sable mouvant, puisqu'elle défend des choses sur lesquelles elle n'a pas encore ses acquis. Mais pour autant, elle est forte parce qu'elle est droite et elle est debout et elle est ancrée dans le sol.
Comment, à un niveau intime ou personnel, vous, est-ce que ça vous parle? Ou pour le dire autrement, à quel moment vous avez pris conscience que vous étiez une femme?
À partir du moment où je me suis impliquée dans pour la cause des femmes, parce que je pense que quand on est en entreprise, on n'est pas dans ce débat-là, et surtout ma génération, on n'était pas dans l'égalité des salaires, on était sur autre chose, l'existence de la femme dans une entreprise. Et puis cette force, je l'ai peut-être puisée sur le fait de tendre la main aux autres femmes, et puis de voir des femmes qui ont besoin d'aide, ça m'a complètement animée. Et puis la rencontre avec Pierre, évidemment, qui, sur une autre cause et une autre forme de militantisme, m'a fait prendre conscience que le sexe était quelque chose, le socle de la vie des femmes, de la vie de la femme.
Alors justement, Pierre Foldès, votre masculin à vous, ce serait quoi?
Quand on m'a demandé d'apporter un objet du masculin, j'étais très très gêné. Et puis ensuite, j'ai réfléchi, c'était naturellement ça. Wow. Donc, cette espèce de pince, c'est l'instrument central de toute boîte de chirurgie, ça s'appelle un porte-aiguille. Mmh. Et donc c'est cet instrument qui permet de porter les aiguilles qui nous servent à réparer. Donc avec ça, on peut tout réparer. C'est extraordinaire. C'est la prolongation de la main, en l'occurrence la main de l'homme qui est très très petit dans ce monde de la suture, de la couture, où c'est un monde féminin. C'est les femmes qui cousent, c'est les femmes qui réparent, c'est les femmes qui suturent. Nous, on essaye de faire un peu comme elles, donc on a besoin de cet instrument pour essayer de faire aussi bien qu'elles.
Mais c'est-à-dire qu'il faut une délicatesse infinie et un sang-froid pas croyable aussi, parce que vous opérez pas n'importe où, je veux dire pas n'importe quel endroit de l'anatomie féminine.
Oui.
Est-ce que la musique que vous mettez en bloc opératoire, ça vous aide vous aussi?
À beaucoup, je suis dans l'émotion totale, mais surtout, au début, quand elles nous ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait vous offrir, je dis vous donner un CD de musique de votre région. Donc j'essaye. Ouais. Maintenant, j'ai un peu un panel de tout. Je regarde d'où elles viennent et j'essaye de mettre de la musique d'où elles viennent. Et l'anesthésiste nous a dit, mais ça diminue de 30% la dose anesthésique. C'est incroyable. Donc il y a de l'émotion et on opère vraiment dans l'émotion, ce qui est absolument prodigieux, quoi.
Alors nous, on voudrait pas vous anesthésier, mais on va devoir envoyer le générique de Passons Genre parce que c'est la fin de cette émission. C'est le moment de se dire au revoir. Merci infiniment Frédéric Martz, Pierre Foldès, d'être passé nous voir. Je donne l'adresse internet de votre association, www.women-safe.org. Un grand bravo à tous les deux. Je signale également que Thierry Dupin a signé la programmation musicale de cette émission. Vous en retrouvez toutes les références à franceinter.fr, à la page de Passons Genre. Restez à l'antenne juste après le flash. Vous avez rendez-vous avec le Côté Club de Laurent Goumard. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end.